La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Je suis aujourd'hui à nouveau avec Yves Dupénoit, qui est océanographe et qui a fait une longue carrière à l'IRD, l'Institut de recherche et de développement, et qui a travaillé dans plusieurs pays différents, en particulier en Nouvelle-Calédonie, donc on en a beaucoup parlé la semaine dernière, pour l'étude détaillée du phénomène El Niño. Et donc on a parlé de ce phénomène, Yves, la semaine dernière. Peut-être tu pourrais nous dire quelques mots un peu plus sur ce qu'on sait sur ce phénomène, comment il se forme et aussi les répercussions sur le climat, en tout cas local. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça?
Oui, pour expliquer simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'à un moment donné, on a une zone plutôt dans la partie centrale ou ouest du bassin.
Attends, du bassin, tu parles de...
du bassin pacifique.
Ce que vous appelez le bassin, c'est l'océan Pacifique. D'accord, parce que c'est pas évident, hein, c'est de la terminologie de sonographe, ça,
de l'océan Pacifique. Donc, près de l'équateur, ou à l'équateur, on a une zone qui est où apparaît donc une température de surface de la mer qui est plus élevée que d'habitude.
C'est-à-dire qu'il y a une petite quelque chose qui se passe quelque part, on ne sait pas trop pourquoi.
On ne sait pas trop pourquoi.
Mais ça arrive tout le temps, en fait. Il y a tout le temps des fluctuations un peu partout. Donc là, il y a une petite fluctuation quelque part.
Et alors, cette zone, bon, dans certains cas, cette zone donc, va affaiblir les alizés si on regarde à l'est. Par contre, au contraire, va créer des vents d'ouest.
Ça fait une différence dans les vents.
Oui. Et ça va créer donc des mouvements ascendants dans l'atmosphère et ça va perturber l'atmosphère au-dessus de cette zone-là. Et dans certains cas, cette zone, du fait de ces perturbations dans l'atmosphère, va s'étendre et se déplacer donc de la partie centrale vers la partie est du bassin, c'est-à-dire vers l'Amérique du Sud.
Attends, excuse-moi, juste pour comprendre, c'est cette anomalie, donc il y a des anomalies qui peuvent se produire, on sait qu'il y a toujours des anomalies qui peuvent se produire partout, elle n'est pas toujours au même endroit, ou est-ce que c'est une anomalie qui se produit en général dans la même région?
Ce qu'on s'est aperçu pour les El Niño, tout au moins ceux de la période 1980 jusqu'à 2010 ou 2000 même après, c'est plutôt dans la partie centrale du bassin que ces anomalies se produisent.
D'accord.
Et qui peuvent, dans certains cas, produire justement une anomalie beaucoup plus grande puisque le réchauffement s'étend vers la côte sud-américaine avec donc des vents des alizés qui vont s'affaisser, qui vont ne plus exister pratiquement, et même des renversements avec des vents d'ouest au lieu d'avoir des vents d'est. Et bien sûr, avec ça, ça influe beaucoup sur la structure des courants dans la partie ouest et centrale et même est. L'océan Pacifique, c'est un océan qui est très, très grand, c'est immense. Et ça fait des quantités de chaleur absolument phénoménales.
Excuse-moi pour encore une fois d'interrompre, mais c'est pour les auditeurs. On l'a dit la semaine dernière, mais ce serait peut-être pas mal de redire que là, on est en train de discuter d'un phénomène qui existe depuis très 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 longtemps et on ne parle pas du réchauffement climatique. C'est-à-dire que ce phénomène-là se superpose au réchauffement climatique global, mais pour l'instant, on n'est pas en train de parler du réchauffement climatique global. Il faut que peut-être que ce soit clair pour les auditeurs. Donc c'est un réchauffement local, enfin local même si c'est le Pacifique et que c'est très grand, et qui est dû à un phénomène donc particulier, ce El Niño.
Voilà, mais alors après, effectivement, donc ce réchauffement donc de l'océan Pacifique va avoir un impact très important sur l'atmosphère, parce qu'il y a entre l'atmosphère et l'océan, il y a toujours des échanges continuels, et plus l'océan est chaud, plus ça va rendre instable l'atmosphère qui est au-dessus. Donc, ça va créer des perturbations dans la circulation atmosphérique. Et c'est pour ça que le El Niño va créer des perturbations sur les pays qui entourent le Pacifique tropical. Donc, par exemple, il y aura des sécheresses en Indonésie et en Australie. Par contre, il y aura des pluies très abondantes du côté de Noël et de début d'année sur les côtes de l'Équateur, du Pérou et du Chili. Par exemple, les seules pluies qui se passent dans le désert d'Atacama, c'est au moment d'El Niño. Et il y a des plantes qui repoussent tous les 3 ou 7 ans au moment où l'El Niño...
Ça intéresse les astronomes, parce qu'il y a beaucoup d'observatoires dans l'Atacama.
Voilà, et donc les seuls moments où il y a des pluies dans ce désert, c'est au moment où il y a la maturité d'El Niño. Bon, et après, donc, il y a même des zones très éloignées qui sont impactées par ce phénomène El Niño. Alors maintenant, à l'époque moderne, ce réchauffement donc des zones tropicales au moment d'El Niño, ça s'additionne bien sûr au réchauffement global. Ce sont deux choses qui se superposent. Le réchauffement climatique qui est tel qu'il est, plus l'événement El Niño qui correspond à un réchauffement de l'atmosphère.
C'est-à-dire que le réchauffement climatique est quelque chose à long terme et l'El Niño, c'est un cycle saisonnier.
Enfin, saisonnier, pas tout à fait saisonnier.
Pas tout à fait saisonnier, mais un cycle naturel qui ne revient pas toujours à la même
fréquence,
mais enfin, c'est quand même un cycle naturel. Et alors donc, y a eu un événement qui est le spatial et l'envoi dans l'espace de satellites comme Topex Poséidon, donc je ne sais plus exactement quelle année, mais de satellites. Il faut expliquer aux gens à quel apport extraordinaire ça a été et que depuis les satellites, on peut faire des mesures très précises de la surface de l'océan et tout ça.
Tout à fait. Alors Topex Poséidon, pour faire simple, c'est des mesures radar qui sont envoyées de l'espace vers l'océan. Donc, c'est des calculs de temps de...
De parcours des ondes.
Le temps de parcours. Et donc, pour nous, il nous faut des temps très précis pour que le signal arrive du satellite jusqu'au niveau de la mer et repart. Donc, nous,
on mesure la surface, la distance à la surface de la mer.
Voilà, c'est ça. On mesure la distance entre le satellite et la surface de la mer. Et donc, ce qu'on va utiliser en océanographie, c'est les différences d'élévation du niveau de la mer. Évidemment, l'océan bouge, il monte, il descend, etc. En dehors des courants de marée, ça n'a rien à voir avec les courants de marée. Et donc, ces fluctuations du niveau de la mer nous permettent de calculer des fluctuations de courant et aussi donc de structures thermiques de l'océan superficiel. Donc, pour ça, il nous faut des mesures évidemment très précises, parce que sinon, on aurait des erreurs énormes sur les mesures qu'on calcule après. Donc, il nous faut un signal qui est de l'ordre du centimètre.
Donc, depuis un satellite qui est à quelle altitude? Quelques centaines de kilomètres,
heureusement.
Depuis quelques centaines de kilomètres, on peut mesurer des variations de moins du centimètre. C'est quand même...
De l'ordre du centimètre, voilà, c'est ça. Et donc, le Topex Poséidon a été envoyé en août 1992. On avait une campagne à ce moment-là en mer. Parce qu'on a mis des instruments en mer dans le Pacifique Ouest, donc au nord de la Nouvelle-Calédonie, enfin près de l'Équateur, pour aider à la calibration des mesures de Topex Poséidon. Et le Topex Poséidon a été pour nous un instrument assez extraordinaire parce que, en regardant les fluctuations du niveau de la mer, on a vu que le signal se transportait très rapidement. Enfin, quand on parle très rapidement, c'est de l'ordre de quelques mois, enfin de 2 ou 3 mois.
Le signal, c'est-à-dire une sorte de rayon, une fluctuation locale,
qui se propage du Pacifique Ouest ou Central vers l'Amérique du Sud. Et donc, on a pu suivre de façon assez intéressante, enfin de même assez précise, l'évolution d'El Niño, notamment celui de 1997-98. Sans entrer dans les détails, on a ici vu grâce à Topex Poséidon sur les fluctuations du niveau de la mer, les théories sur les ondes équatoriales, qui sont des ondes qui perturbent l'océan superficiel, et donc que ces théories-là existaient, et on voyait même la forme le signal de se propageant le long de l'équateur, on voyait la forme de ces ondes. Ça, c'était vraiment assez extraordinaire de voir ça. Je veux dire, pour la petite histoire, il a été envoyé par la fusée Ariane de Kourou, mais en juillet 92, donc un mois avant le lancement, il y a eu une alerte en disant « Ouais, mais il y a des problèmes de batterie, et est-ce qu'on retarde, etc. » Et puis, finalement, la décision a été prise de ne pas de l'envoyer quand même. Et donc, le lancement a très bien réussi. Et surtout, le satellite était prévu pour vivre, survivre 2 ou 3 ans. Et en fait, il a vécu 12 années. Hein. Et donc, il a été remplacé après. Et donc, le Topex Poseidon, c'était vraiment une réussite. Et alors maintenant, on a d'ailleurs, à la suite de ce satellite-là, on a d'autres satellites, et les satellites Jason, la série Jason, qui permet de continuer cette série. Et maintenant, on a une série qui doit faire, je ne sais plus combien, 30 ou plus de 40, ou 40 années quoi, maintenant de mesures altimétriques, et qui permet de voir l'océan global. Donc, ça a révolutionné aussi un peu la façon dont on voyait l'océan. Ce qu'il y a, c'est qu'on a toujours besoin quand même de mesures à la mer parce que le satellite ne mesure que les couches très superficielles de l'océan et on ne va pas voir ce qui se passe en dessous. Et en dessous, quelquefois, il se passe des choses quand même très importantes. Mais c'est quand même...
Alors, on imagine, hein, parce que ce qui se passe en surface dépend aussi de ce qui se passe au fond. Il y a un serpent, hein. Mais, et tout ça est relié aussi à l'atmosphère. Donc, en fait, tout ça, c'est quelque chose de très global.
Oui, tout à fait, oui.
Oui, voilà. Eh bien, merci Yves pour toutes ces informations sur le phénomène El Niño et la manière dont on fait les observations actuellement et aussi l'importance des satellites et de l'espace. Et on va se revoir encore une fois la semaine prochaine, mais cette fois-ci, on va quitter l'océan Pacifique et on va parler de l'Afrique, la mousson africaine, le golfe de Guinée. Et de tes expériences de plusieurs années d'études, toujours à l'Institut de Recherche et Développement, mais à Cotonou, au Bénin, et toutes les études que vous avez faites là-bas, et toutes les relations aussi avec les étudiants africains. Donc, à la semaine prochaine. Merci.
À la semaine prochaine. Au revoir.